je voulais vous un petit peu présenter mes travaux, ce que je fais en ce moment, et en même temps, je cherchais un sujet qui serait vraiment un peu piquant, un peu voilà, intéressant pour vous, original. Et puis je pense que je l'ai trouvé, ce sera quelque chose qui se situe plutôt dans le domaine de l'historiographie, mais dans le domaine d'une historiographie très très particulière. Alors, il faut déjà donner le contexte général. Je me suis intéressé, je m'intéresse à la question du témoignage, de la littérature, du rapport entre la littérature et l'historiographie. Donc il y a trois éléments qui reviennent systématiquement dans mon travail: historiographie, notamment académique, fiction, roman, donc, et comme un troisième terme qui sera entre les deux, c'est le témoignage. J'ai fait à l'époque ma thèse doctorat, donc j'ai travaillé sur Claude Simon et Daniel O'Keefe. Daniel O'Keefe est un auteur juif serbe qui a écrit beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les systèmes totalitaires en général. Il a d'abord écrit sur son expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Son père a été déporté dans le camp d'Auschwitz. Daniel O'Keefe a survécu. Et entre autres choses parce que pendant la guerre, l'église orthodoxe lui a en fait délivré des faux papiers sur lesquels donc lui et sa sœur étaient chrétiens orthodoxes, ce n'était qu'un mensonge à moitié parce que sa mère était orthodoxe et son père était juif. Et donc il raconte dans son cycle familial l'attraque que sa famille a subie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et plus tard, il a écrit un livre très important à mon avis, intitulé Un tombeau pour Boris Davidovitch, qui est un recueil de nouvelles portant sur le système communiste cette fois-ci et sur les purges staliniennes, donc des années 30. Et donc dans son œuvre, il était vraiment obsédé par les systèmes totalitaires qui ont en fait marqué le XXe siècle. Pour lui, le XXe siècle était vraiment le siècle de totalitarisme, des camps, d'extermination, qu'elle soit politique ou ethnique ou religieuse. Et je me suis intéressé aussi à l'œuvre de Claude Simon, qui, curieusement, qui est toujours considéré comme un néo-romancier. Donc on dit que le nouveau roman est un courant littéraire qui évacue complètement l'histoire et la réalité. Or, quand on lit Claude Simon, la plupart des œuvres de Simon, c'est quand même une écriture qui est marquée par un questionnement sur l'histoire de la France, sur l'histoire de l'Europe. Il parle notamment de la Révolution française, qui revient systématiquement dans ses romans. Il parle de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle son père est mort. Le père de Claude Simon était un officier de carrière. Et en fait, Claude Simon n'a jamais connu son père parce qu'il était enfant. Si vous voulez, ce sont des choses qui... et puis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'ai essayé de rapprocher, de comparer ces deux œuvres qui... à prime abord, était très différente, pour voir comment l'histoire est abordée dans ces deux univers fictionnels. Et plus tard, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de la littérature de la Shoah, en essayant de montrer comment, à partir des années 60, la littérature de la Shoah évolue. Lorsqu'on dit aujourd'hui littérature de la Shoah, ça apparaît comme quelque chose de tout à fait naturel. Ce n'était pas le cas dans les années 50 ou 60. Pourquoi ? Parce que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on distinguait très clairement d'un côté tout ce qui relève du témoignage historique et de l'autre côté la littérature entendue comme le domaine de la fiction. Et les deux ne se mélangeaient pas, si vous voulez. Et ma thèse essentielle dans ce livre que j'ai publié en 2012 était de montrer que la littérature évoluait et que cette idée, cette vision qu'on a aujourd'hui de littérature, même de littérature de fiction qui parle de la Shoah, que c'est quelque chose qui est relativement récent, que ça a été obtenu de haute lutte par un certain nombre d'écrivains, et que la fiction ne voulait pas dire outrage à la mémoire des victimes, ce qui était considéré dans les années 50 comme tel. Et donc, ce passage, j'ai essayé de démontrer que dans cette transformation de l'écriture d'un événement historique concret, qui est l'extermination des Juifs d'Europe, il y avait plusieurs facteurs qui jouaient. Il y avait le facteur proprement littéraire, et il y avait le facteur sociologique ou historique. En réalité, je crois que l'année 1961 était l'année décisive, puisque cette année-là a lieu le procès d'Eichmann à Jérusalem, et il y a toute une série d'événements de nature, comment dire, historique et sociologique, qui font qu'on commence à prendre conscience de la Shoah. La Shoah n'a jamais été niée, mais elle n'a jamais été... Jusque dans les années 60, on ne comprenait pas complètement les spécificités de cet événement historique et les dimensions. Et c'est donc en 61 que les choses commencent à changer de manière assez radicale, assez rapide. Et tous les historiens qui travaillent sur la question sont d'accord là-dessus. L'année 61 est vraiment l'année qui est l'année de basculement. Et curieusement, je dis entre guillemets, cette même année, paraît en France un livre intitulé « Le sang du ciel » écrit par un certain Piotr Lavitch, qui est un rescapé d'Auschwitz et qui, sous une forme purement fictionnelle, va raconter la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la persécution telle qu'elle s'est déroulée en Ukraine, puisqu'il est originaire d'Ukraine, enfin c'est un Polonais d'Ukraine, juif polonais d'Ukraine. Et à partir de ce moment-là, on peut suivre un fil d'évolution historique sur le plan de l'histoire littéraire. On va avoir un certain nombre d'œuvres importantes qui vont chaque fois apporter un peu plus de fiction, un peu plus d'expérimentation formelle, et qui vont faire que, finalement, vers la fin du XXe siècle, la fiction de la Shoah devienne vraiment majoritaire, si vous voulez. Après avoir fait tout ça, je me suis rendu compte, et c'est le sujet de ma conférence aujourd'hui, que finalement, l'évolution du rapport entre la littérature de fiction et l'historiographie d'un côté, et la littérature de fiction, le témoignage de l'autre côté, ne peut pas être séparée, à mon avis, de l'évolution des sciences humaines. Je m'explique. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, donc j'ai dit que d'abord j'ai travaillé sur deux auteurs qui sont des auteurs de fiction, mais qui dont le travail porté sur l'histoire européenne. Ensuite, que je me suis intéressé à l'évolution d'une sorte de sous-genre littéraire qu'est la littérature de la Shoah, comment elle apparaissait et comment elle évoluait, cette littérature-là. Et que, dans un troisième temps, finalement, aujourd'hui, on dit que ce qu'on appelle la non-fiction en France, je ne sais pas si le terme est courant au Québec, c'est-à-dire toute cette littérature qui serait littérature mais pas fiction précisément. Donc on a une sorte de retour à la prémodernité où le terme littérature était quelque chose qui englobait aussi l'historiographie. Donc cette non-fiction qui est aujourd'hui considérée comme l'élément le plus dynamique, le plus intéressant de la création littéraire, ce qui est considéré vraiment comme le domaine où la qualité est la meilleure, si on a le droit de parler de la qualité, comme ça. Donc la haute littérature serait effectivement aujourd'hui la partie la plus intéressante, serait la non-fiction. D'où ça vient soudainement? Pourquoi justement la non-fiction? Eh bien, pourquoi après cette évolution que j'ai je viens de décrire où parler de la Shoah va du document vers la fiction, pourquoi maintenant on revient de la fiction vers quelque chose qui serait le document. Est-ce que ce serait le résultat d'une évolution, d'une histoire de la littérature, donc d'une évolution proprement endogène, quelque chose qui serait interne à l'histoire de la littérature, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Et je pense que ce phénomène affecte aussi l'historiographie, mais dans un sens qui est assez amusant, comme une image dans le miroir inversé, c'est-à-dire au moment où la littérature tente d'aller vers plus de factualité, certains mouvements, certaines lignes de force dans l'historiographie vont vers plus de fiction. Donc on a ce couple un peu inversé qui avance ensemble. Et que pour les expliquer, il faut prendre en compte non seulement cette évolution endogène, mais il faut comprendre aussi tout ce qui s'est passé dans le domaine des sciences humaines en général. En fait, je pense que l'évolution qui va du formalisme russe au début du siècle passe par le structuralisme des années 60 et se termine avec le postmodernisme à la fin du siècle. Cette ligne d'évolution générale a fait que, notamment dans la période, dans cette séquence structuralisme-postmodernisme, on a une tendance qui est manifeste par exemple dans le travail du nouveau roman et surtout dans le travail de ce groupe que vous connaissez certainement tel quel, qui était guidé par Philippe Solers. On le retrouve dans Sous la plume de Barthes également, cette idée de l'art pour l'art, d'un art qui ne dirait rien sur rien. J'utilise les mots un peu durs, mais c'est exactement ça. Barthes tombe absolument amoureux d'Alain Robbe-Grillet lorsqu'il découvre le premier roman d'Alain Robbe-Grillet, parce qu'il pense que dans ce roman rien n'est dit, hein. Puis après il est déçu parce qu'Alain Robbe-Grillet a quand même quelque chose à dire, mais il trouve quelqu'un d'autre qui est super, c'est Philippe Solers. Lui assurément il n'a rien à dire, donc il va soutenir Solers pendant un certain temps. Donc c'est cet idéal de l'art qui serait l'art parce que il est pure forme. Et là, on est dans l'aboutissement de cette évolution de la vision de la littérature et de l'art en Occident, dont l'un des moments forts est certainement la naissance de la tragédie de Nietzsche, où il explique que, en fait, ce qui fait que l'art soit l'art, c'est la beauté de la forme, et pas seulement les idées que l'art véhicule. Et donc on arrive à ce déséquilibre progressif entre le fond et la forme. J'utilise des mots qui sont un peu naïfs, mais on va aller vite. Et puisque on se dit, la différence entre un article dans un journal et une œuvre littéraire, c'est la qualité esthétique, c'est-à-dire la forme, et bien alors privilégions la forme. Et donc cette idée de privilégier la forme va aboutir dans les années 60, 70, même un petit peu au début des années 80, à cette hypertrophie de la forme telle que Barthes, Solers ou à un moment donné certains neuromanciers l'ont vu. Et je pense que sur le plan purement littéraire, la non-fiction d'aujourd'hui est une sorte de réaction ou d'un retour de balancier, c'est-à-dire la recherche d'une littérature qui a quand même une connexion avec le monde réel et qui a quand même quelque chose à dire sur le monde réel. Un deuxième élément qui est important, c'est le discours théorique qui va de pair dans les années 60 et 70 avec la création littéraire, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les années 60 et 70 sont le paradis perdu des profs de lettres, hein. C'est à l'époque il y avait tellement de colloques et de réunions entre les écrivains et les critiques littéraires, les théoriciens. C'était une époque formidable et tous ceux qui ont vécu en parlent aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Et dans cette période-là, s'est construit toute une idée, toute une vision de l'art et de la littérature comme quelque chose qui exclurait radicalement, par avance et par principe, toute idée de réalité ou de vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux éléments vont de pair. C'est-à-dire que la théorie, qui, le structuralisme entendu dans le sens le plus extrémiste de ce terme, va justifier la création romanesque, et la création romanesque va en retour soutenir la réflexion théorique. L'exemple paradigmatique de cette relation entre la théorie et la pratique, c'est ce qu'on connaît très bien. Il y a un très beau livre publié sur le sujet, la relation entre Roland Barthes et Anne Robbe-Grillet, où on voit très bien comment le premier critique de Robbe-Grillet, Roland Barthes, va poser des bases de lecture de Robbe-Grillet. Pendant 30 ans, on a lu Robbe-Grillet selon les préconisations données par Barthes au début, et comment Robbe-Grillet va essayer de satisfaire, consciemment ou inconsciemment, aux exigences de Barthes critique. Et donc, comment on c'est comme un couple, hein, comme un mariage. Hein. Donc, on essaie d'anticiper le désir de l'autre et comment ça évolue. Le même phénomène peut être trouvé dans cette histoire, dans cette relation entre Philippe Solers et Roland Barthes. J'ai ici un petit point important, je pense que je vais apporter, qu'il y a même un livre intitulé « Solers écrivain » où vous avez un recueil d'articles de Barthes qui explique à quel point Solers est absolument incontournable pour tous ceux qui aiment la littérature française. Et donc vous voyez comment un critique construit un écrivain, comment il va fabriquer en quelque sorte un écrivain. Donc, bon, je sais que il ne me reste pas encore beaucoup de temps. Alors, ce qui se passe avec l'historiographie, quand on regarde l'historiographie, traditionnelle ou académique, on voit que l'historiographie est également, en quelque sorte, victime, en tout cas, subit l'influence de tout ce que je viens de décrire, donc cette évolution de l'époque structurale et postmoderne, avec le discrédit qui est jeté sur le rapport au réel. Pourquoi c'est une forme de nihilisme, il faut le dire ouvertement, qui dit la réalité n'existe pas, la vérité n'existe pas, ou si elle existe, elle est difficile à atteindre, donc c'est comme si elle n'existait pas, tout est relatif. À ce propos, il y a un moment qui est absolument crucial d'un point de vue historique, c'est l'année 1966. Pourquoi ? Parce que c'est l'année de publication de « Des mots et des choses » de Michel Foucault, qui va montrer que le savoir est quelque chose qui est historiquement constitué et qui est donc par conséquent quelque chose de relatif. Et de l'autre côté, il y a, pour ce qui est important pour nous, la polémique entre Roland Barthes et Raymond Picard. Et cette polémique est extrêmement importante puisqu'elle va cristalliser l'opposition entre deux grands camps qui existent à cette époque-là, la vision traditionnelle de l'enseignement et de l'analyse de la littérature, symbolisée par la Sorbonne, et donc Raymond Picard, spécialiste de Racine, absolument incontesté, incontestable, et de l'autre côté, Roland Barthes, qui représente les nouveaux. Si Picard représente les anciens, Barthes représente les nouveaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nouvelle critique à l'époque. Et dans cette polémique, Barthes va essayer d'expliquer que, grosso modo, encore une fois, je simplifie un petit peu, ne m'en voulez pas, que tout est relatif. Hein, et qu'en termes d'analyse littéraire, il n'y a pas de vérité éternelle, et qu'on peut appliquer différents types de lecture et d'interprétation à un même texte sans être accusé d'incompétence ou de manque de sérieux. Eh bien, dans l'historiographie, en même temps, on a quelque chose qui est très important et qu'on appelle le tournant linguistique, et quelque chose qui est imaginé, qui démarre avec Hayden White, le travail de Hayden White, notamment un livre publié en 1973 intitulé Metahistory. Et ce que White fait, mais il commence à écrire déjà dans les années 60, Hayden White, des articles, en fait on voit très bien qu'il est très influencé par le travail de Barthes et par les polémiques, les débats qui se déroule dans le domaine purement littéraire. Et la thèse essentielle de White sera que l'historiographie, j'insiste bien, académique, sérieuse, doit être renouvelée. Il publie à peu près au milieu des années 60 un article qui a un titre absolument étonnant, Le fardeau de l'histoire. C'est un historien qui parle du fardeau de l'histoire. Donc on a de quoi être inquiet. Et évidemment, il va expliquer que l'historiographie est une vieille dame, un peu sclérosée, et qu'il faut lui donner un peu plus de vitamines et de l'énergie. Et donc, cette énergie ne peut venir que de la littérature. Or, ce qui se passe, c'est évidemment le rapport entre historiographie et littérature, c'est quelque chose qui existe depuis que les deux existent. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui est intéressant avec White, c'est qu'il ne prend pas le couple roman réaliste, historiographie, qui est le couple qui est traditionnellement utilisé, puisque le roman réaliste parle du réel, censé parler du réel, l'histoire de même. Non, il va se référer à la littérature la plus expérimentale, la plus avant-gardiste, en disant, voilà, c'est cette forme d'écriture-là où on va chercher de l'expérimentation formelle, les nouvelles manières de s'exprimer, qui doit être le modèle ou l'inspiration pour les historiens d'aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, il va essayer d'expliquer, de manière qui d'ailleurs est assez convaincante, que la vérité dans l'histoire est extrêmement difficile à atteindre, à tel point qu'on est presque tenté de dire qu'elle n'existe pas. En tout cas, si elle existe, White n'a jamais nié l'existence des éléments historiques. Hein. Il n'a jamais dit que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas existé. Mais il a dit notre connaissance d'un événement est prisonnière de notre histoire personnelle, de notre éducation, de notre opinion politique, idéologique, de notre croyance religieuse, etc., etc. Et que en travaillant à partir des mêmes archives, trois ou quatre historiens différents, tout en croyant de bonne foi dire la vérité, vont chacun raconter une version différente. Et donc de là, il va tirer la conclusion que il faut se méfier de cette prétention typiquement 19e des historiens de dire les choses telles qu'elles se sont réellement déroulées. Ce que je pense, et j'espère que vous n'allez pas publier ça avant moi, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le fait que White se réfère à ce bouillonnement culturel des années 60 dans le domaine de la littérature et qui va chercher l'avenir de l'historiographie dans l'avant-garde littéraire. C'est-à-dire précisément dans cette avant-garde qui, sur le plan de la création, aussi bien que sur le plan de la théorisation, va toujours aller vers la destruction ou la contestation radicale des repères de base que sont la factualité, la réalité, la vérité, etc., en accordant dans le meilleur des cas à la vraisemblance le droit d'existence. Tout le reste est condamné d'emblée. Et donc, pourquoi ? Ça veut dire que finalement, je pose la question, je n'accuse pas White de tous les maux, est-ce que c'était une façon pour White de promouvoir précisément cette liberté qui lui permet à lui, l'historien, de dire ce qu'il veut ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il ne se réfère pas à Zola, il se réfère à Solers et au nouveau roman. C'est quand même pas le même type de référence. Donc, il est quelque part lui-même dans ce mouvement historique dans le double sens de ce terme, historique dans le sens universel, mais historique aussi dans le sens de l'histoire intellectuelle de l'Occident. Parce que les historiens et les littéraires partagent à ce moment-là la même passion, le même intérêt pour la langue. Et ça nous vient pour le moins, au moins, des formalistes, on sait rien de plus loin, mais les formalistes vont, russes vont, dans les années 1910, dire une chose qui me semble très intéressante et très importante. Bon, d'abord, je pense que nous sommes tous d'accord que toute la théorie littéraire, ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie littéraire en Occident, repose sur les formalistes russes. Enfin, c'est le premier pas. Tout ce que vous avez aujourd'hui repose sur leurs travaux. Deuxième élément, ce que font les formalistes, ils affirment deux choses. La première chose, nous voulons, je les cite, créer une science de la littérature. Pourquoi cette idée? C'est le prolongement direct de l'évolution de la modernité occidentale, c'est-à-dire la haute modernité, où nous avons l'autonomisation des arts et des sciences, et l'Occident devient à ce moment-là définitivement la civilisation technologique. Et ceux qui sont dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines se rendent compte du retard que l'art et les sciences humaines ont accumulé, entre guillemets, par rapport à la science. Et ils se disent, au début du siècle, ben, on va essayer de rattraper ça, et on va essayer de créer nous-mêmes une science, mais cette fois-ci une science de la littérature. Donc la première affirmation, la deuxième affirmation, comment peut-on devenir scientifique quand on est dans le domaine des humanités? Eh bien, on va choisir la linguistique comme locomotive de progrès. C'est la linguistique qui va nous guider parce qu'elle est la plus scientifique de toutes les disciplines dans les sciences humaines. Et sous l'égide de cette linguistique, va se développer plus tard le structuralisme et ses conséquences au postmodernisme. La langue devient l'élément clé. Comprendre l'art, comprendre la littérature, c'est comprendre ce qu'on appelait dans les années 60 le langage. Et peu à peu, vous trouvez ça chez Claude Lévi-Strauss, qui est le fondateur du structuralisme. Vous trouvez ça chez Foucault. Vous trouvez ça chez Derrida. Vous trouvez ça chez Barthes. Vous trouvez ça chez Solers et Rome Grillet. En un mot, les mots, le rapport des mots aux choses devient la clé d'analyse de l'art et des sciences humaines. Et cette obsession par la langue, qui n'est plus une langue transparente, qui ne dit pas le monde tel qu'il est, mais qui devient une sorte d'obstacle, il y a une épaisseur de la langue, il y a une non-transparence de la langue, qui devient finalement, pour les artistes et les théoriciens, le point essentiel, le centre de leur réflexion, eh bien on va le retrouver peu à peu chez les historiens qui vont vous expliquer, comme Hyde White, que finalement la mise en récit est un processus, je cite, fondamentalement fictionnel, c'est-à-dire de mise en fiction. Il va identifier la mise en récit à la mise en fiction. Et donc là, il y a ce parallélisme-là qui fait que on peut désormais envisager l'historiographie comme une historiographie anti-moderne, si l'historiographie moderne est celle des historiens du XIXe siècle que l'on connaît, et qui est une historiographie positiviste. Eh bien, l'historiographie de Hyde White est une historiographie qui est anti-positiviste, qui est relativiste, puisqu'elle prétend qu'elle considère que le postulat essentiel est la possibilité théorique de dire une vérité unique du monde. Et là, les historiens et les littéraires se retrouvent dans cette affirmation également partagée de l'impossibilité de dire le réel. La non-fiction aujourd'hui tente de revenir sur tout cela. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un retour de balancier. La non-fiction aujourd'hui essaie de prendre le contre-pied de tout ce que je viens de raconter, peut-être un peu trop rapidement et trop schématiquement. Ce qui se passe dans le domaine de l'historiographie, finalement, je n'aurai pas le temps d'en parler. Ici, il y a deux livres qui sont très intéressants, ne sont pas du tout très connus. Il y a ce livre, Le dossier Bertrand, dont je dirai quelques mots pendant la discussion après, et il y a Reconstitution. En fait, c'est un diptyque. Il y a un livre qui a été publié avant, et puis il y a cette reconstitution qui est un roman photo d'un historien. Hein. Il y a un troisième livre qui me paraît important, très important, intitulé « Le monde retrouvé » de Louis-François Pinagot, publié en 1998 par un très très grand historien français, Alain Corbin. Eh bien, ces trois livres, ou quatre livres, juste deux minutes après, je sais que je n'ai plus le temps. Ce sont donc des livres qui sont publiés à la toute fin du XXe siècle, au début du XXIe, donc depuis une vingtaine d'années. Et ce sont des livres d'abord publiés par des historiens de métier, ils sont tous principalement universitaires, mais qui vont, ils vont pas abandonner la réalité complètement, mais ils vont se livrer à toutes sortes de jeux formels. Par exemple, ce livre, Le dossier Bertrand, est écrit par plusieurs historiens et déjà il se présente comme presque un livre d'art parce qu'il y a de belles photos, de schémas qui sont intégrés donc à la mise en page. Et c'est sous-titré « Jeu d'histoire » parce que les historiens qui travaillent, qui composent cet ouvrage, ont imaginé des règles du jeu qu'ils vont respecter. Ils se font une sorte de monopole, c'est-à-dire que chacun va jeter des dés, il va parler à son tour de ce même sujet. Bon, on verra si vous voulez après les détails, mais on est dans un jeu, mais dans un jeu dans le sens littéral du terme. On joue, alors qu'ils sont tous des profs de fac et reconnus et sérieux et vraiment, et ils vont essayer d'écrire une histoire qui montre précisément qu'il est impossible d'atteindre la vérité. Ils vont travailler sur la même archive et chacun va raconter une autre histoire à partir de la même archive. Et à la fin, ils vont mettre une table de matière, table des discordances, où ils vont dire voilà sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et quand vous voyez les éléments sur lesquels ils ne sont pas d'accord, ils ne sont d'accord sur rien. C'est-à-dire que ils doivent parler d'une famille, ils savent même pas, ils sont même pas d'accord sur le nom de la fille, ils sont même pas d'accord sur le fait si c'est une fille ou un garçon. Les éléments de base de l'histoire qu'ils sont censés raconter en tant qu'historien, ils sont pas d'accord. Donc, on dirait, ben mince, ils donnent raison à Hayden White. Effectivement, ils sont incapables de dire la réalité. L'idée même de raconter une histoire sous la forme d'un jeu de société, à mon avis, vient directement de tout ce que je viens de vous raconter, toute cette évolution qui va du structuralisme au postmodernisme avec des bases solides dans le formalisme. Pourquoi ? Parce qu'on est systématiquement dans l'assertion de deux choses qui sont des exacts contraires. On va toujours vous dire qu'on fait ça au nom de la science. Le structuralisme, c'est on fait ça au nom de la science. Mais on aboutit à la promotion de la fiction, à l'assassinat de la vérité. Et on a ici la thèse sur laquelle on fait ça au nom de la science, mais on a un jeu. Alors moi j'aime beaucoup ce livre, enfin je suis pas un détracteur de... Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Mais je ne peux pas ne pas remarquer qu'il y a une contradiction, que c'est une contradiction dans les termes de dire on fait ça pour faire avancer la science et en même temps on en fait un jeu de société. Comme je ne peux pas ne pas remarquer que ce roman photo de Philippe Artier est résultat d'un travail qui est très simple. À un moment donné, il obtient une bourse d'un an, une sorte de bourse de création. Il est à Rome. Or, il se trouve que l'un de ses ancêtres, qui était prêtre catholique, a été tué à Rome, je pense en 1925, et il se dit, bon, j'ai une bourse de création, mais je suis en même temps historien, pas seulement romancier, donc je vais saisir ce séjour à Rome pour voir, pour un petit peu travailler en tant qu'historien, enquêteur sur l'assassinat de mon grand-oncle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? En substance, bon, il va faire un peu de recherche, on va pas le nier, mais bon, un tout petit peu. Mais principalement, il va se grimer en prêtre, donc il va vraiment jouer le rôle de prêtre, il va se promener dans Rome et il va essayer de se promener dans les endroits, dans les quartiers, dans les rues où son ancêtre a effectivement vécu, s'est promené il y a un siècle, pour, dit-il, se mettre dans la peau de son personnage. Je me permets de douter des vertus épistémologiques de la démarche, si vous voulez. Mais bon, voilà. Et il va être accompagné d'un photographe qui va le photographier. Donc c'est une mise en scène de soi, typiquement postmoderne, voilà, qui n'apporte rien à la connaissance historique. Et donc son premier livre va raconter sa quête de la vérité historique. Son deuxième livre sera un roman photo sur le premier livre. Donc on le voit à Rome se promener, puis la scène, le moment, l'endroit où son grand-oncle est assassiné, eh bien Philippe Artière va se coucher devant tout le monde par terre, va commencer à se lever, et l'autre photographe va tourner autour de lui en le photographiant. Évidemment, les gens sont complètement scandalisés, ils ne comprennent pas ce qui se passe, et donc on est dans une sorte de performance artistique de Philippe Artière. Donc deux exemples de travaux des, encore une fois, et je conclue là-dessus, de jeunes, relativement jeunes, ils ont quand même entre 40 et 50 ans, historiens qui, après avoir fait de longues études, réussi des concours très difficiles, survécu, ce sont des survivants, enfin ils ont trouvé un poste à l'université, ils sont pour la plupart d'entre eux reconnus, donc ce n'est pas des rigolos, pardonnez-moi par l'expression, eh bien, ils vont se lancer dans des jeux, avec la forme, avec le type d'écriture, avec le genre, en essayant un petit peu d'aller du côté de la littérature, mais un petit peu aussi de performance comme ça, des choses. Et tout cela, comme si l'historiographie était fatiguée de la factualité, et comme si l'historiographie voulait maintenant aller un peu chercher, aller sur les plates-bandes de la fiction et de la littérature, au moment même où cette même fiction va chercher plus d'authenticité, plus de réalité, plus de factualité dans cette même fiction. Et donc voilà le propos, j'espère que je n'étais pas trop confus, mon propos était de dire qu'il faut surtout éviter d'observer tout ça du point de vue strictement endogène, donc strictement du point de vue de l'histoire littéraire. Il faut aussi prendre en compte l'évolution dans les sciences humaines en général. Donc le discours théorique influe sur l'évolution de la création littéraire autant que l'histoire de la création littéraire elle-même. Merci beaucoup.